L'échappée normande, by Tendance Ouest, le podcast des amoureux du Tour.
Il s'est fait attendre de longues années, mais en 2025, le peloton du Tour de France traverse à nouveau la Normandie. Et de quelle manière? Avec trois étapes, un final escarpé à Rouen le 8 juillet, un contre-la-montre individuel dans les rues de Caen et autour le lendemain, et enfin le 10 juillet, l'étape de plaine la plus accidentée de l'histoire qui emmènera les coureurs de Bayeux à Vire, en passant par quelques routes de la Manche et de l'Orne. Pour l'occasion, Tendance Ouest est allé à la rencontre des plus grands champions de notre région. Ils sont normands et se sont illustrés sur le Tour de France. Ils partagent leurs souvenirs sur leur route d'entraînement, racontent leurs exploits sur la grande boucle, délivrent des anecdotes croustillantes et décryptent les étapes de cette édition 2025. Bienvenue dans Tour de France, l'échappée normande.
De belles victoires et de grandes souffrances. Écoutez l'échappée normande by Tendance Ouest, le podcast des amoureux du Tour.
Le premier épisode de cette série est consacré à Vincent Barthaud. Il est celui qui a porté le maillot jaune par hasard, une année où Laurent Fignon, dont il a été le témoin de mariage, survolait le Tour face à Bernard Hinault. Notre Normand est né à Caen dans les années 60, a vécu toute sa jeunesse tout près à Giberville. Et s'il a pratiqué la course à pied et le football, il ne pouvait pas passer à côté du cyclisme.
Alors le vélo, en fait, c'est de famille. Mon père était de la région de Nantes, mais le peu qu'il a fait de vélo... Il a fait la finale du Pindalop, c'est la finale des jeunes, comme moi j'ai gagné après en 1980, mais lui il l'a faite à Versailles en 48 avec des souliers de ville et un collant de jockey parce que c'était pas les mêmes moyens.
Doté de véritables qualités sur un vélo, Vincent Barthaud se met alors à sillonner le territoire.
Je me suis entraîné beaucoup dans la Suisse normande, d'ailleurs j'ai vite arrêté l'école parce que ça me plaisait pas, mais je mettais tous les atouts de mon côté. En fait, j'allais du côté de Thuré-Harcourt, Saint-Martin-de-Fontenay, Saint-André-sur-Orne, toute la Suisse normande, Aulnay-sur-Odon, là. Et c'est pas des parcours faciles. Non, parce qu'un coup, j'ai un copain qui était professionnel avec moi, Charlie Mottet. Il est venu passer une dizaine de jours, on était pros tous les deux à la maison, et je l'ai emmené rouler par là-bas. Il m'a dit, Lyon, ici, on n'arrête pas de faire petit plateau, grand plateau, petit plateau. C'est assez fatigant. Mais vraiment, c'est des bons parcours pour s'entraîner. C'est pas de la haute montagne. Mais c'est vraiment des parcours où tu as de quoi travailler tous les jours.
Très vite, les victoires s'enchaînent et notre jeune cycliste rafle tout dans la région.
Mes plus beaux souvenirs, c'est le Trophée des Espoirs que j'ai gagné deux années de suite. C'est sur 12 épreuves tous les dimanches. Il fallait être vraiment très régulier. Donc on finissait par un contre-la-montre à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Je les ai gagnés pendant deux ans, c'était des bons souvenirs.
Champion de France junior, Vincent Barthaud se fait remarquer par Cyril Guimard. Il rejoint une équipe plutôt talentueuse.
Oui, il y avait Bernard Hinault, il y avait Laurent Fignon, il y avait Greg Lemon, pour citer que ces trois-là, mais ça suffit.
Nous sommes donc en 1981 et Vincent Barthaud est convoqué pour effectuer un premier stage avec l'équipe Renault Elf Gitane.
Je me souviendrai toute ma vie, mon père m'a déposé sur le parking de Rambouillet là-bas et avec ma valise et en m'approchant de l'hôtel, de la porte d'entrée où il y avait les affichages des chambres. À un moment, je vois chambre 207, Hinault Barthaud. Et c'était mon idole, il venait d'être champion du monde. Je me dis, non, il y a dû avoir une erreur, c'est pas possible, je suis pas avec Bernard Hinault en chambre, quoi. On se connaissait pas, on s'était jamais vu. Et en fait, si, j'ai passé une semaine avec le blaireau, magnifique, où je faisais vraiment très attention. Quand je prenais la douche, j'essuyais parce que je me dis, si jamais il prend sa douche derrière, enfin, il va la prendre, mais il glisse, il tombe. Voilà, la télé, regardait tard, j'osais rien dire, non, c'était, pour un gamin de 18 ans, c'était magnifique.
Quelques mois plus tard, lors d'un nouveau stage, il partage sa chambre avec une future star du cyclisme mondial, l'américain Greg LeMond.
En fait, je me suis retrouvé avec lui en chambre parce qu'il avait fait aussi le stage l'année d'avant, lui, mais plus personne n'en voulait dans la chambre parce qu'il était bordélique, il ouvrait la fenêtre, il dormait la fenêtre ouverte, enfin, ça plaisait pas trop au mec. Donc ils se sont dit, on va le filer au petit Barthaud, il va se démerder avec. Et moi, j'ai le souvenir d'être allé le chercher avec Guimard à l'aéroport de Nice. La première fois où je découvrais Lemon, c'était quand même quelque chose parce que il avait été champion du monde junior 2-3 ans avant. Et je le connaissais de nom quand même. Je savais que c'était un forcément américain avec de grandes qualités, que ça pouvait être l'homme de demain, le champion de demain. On est allé le chercher à l'aéroport de Nice et je l'ai vu arriver, chapeau de cow-boy, pantalon patte d'éléphant, Santiago. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et on s'est super bien entendu dans la semaine tous les deux. Hein, j'ai ramené des caleçons à lui, il en a ramené à moi. Et l'aventure est partie comme ça.
Les débuts chez les pros se passent bien, avec malgré tout une chute et un abandon sur le Tour d'Italie en 1984. Mais le Normand a la surprise et la joie ensuite d'être sélectionné pour son premier Tour de France. Il fait partie de l'équipe à battre et remporte déjà la la troisième étape, un contre-la-montre par équipe.
Ça a été ma première victoire dans le Tour de France. Alors, je ne la compare pas comme si c'était individuel, mais c'était déjà magnifique.
Deux jours plus tard, le peloton rallie Béthune à Cergy-Pontoise en région parisienne. Une étape sans grande difficulté, mais qui marquera à vie Vincent Barthaud. C'est lui qui raconte.
Et à un moment, je suis à côté de Greg LeMond, puisque ça fait déjà 2-3 ans qu'on se connaît. Et à un moment, il me dit « Oh Vincent, ça va être bien pissé. » J'ai dit « Écoute, Greg, il n'y a pas de souci. » Il y a une règle dans le peloton, en fait, quand tu t'arrêtes de pisser, c'est que tu te mets sur le côté des coureurs, tu les doubles. Tout dépend où tu te trouves, hein, mais là on se trouvait en 30-40e position. Tu passes tout le peloton, tu demandes, écartez-vous, tac, bam, merci. Et tu arrives devant les premiers, tu leur montres que tu t'arrêtes. Ça, c'est la règle. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu es en 30-40e position et que tu t'arrêtes pour le besoin naturel, le peloton devant n'a pas vu, il peut y avoir une attaque en fait. Donc là, tu les préviens. Si les gars sont sympas, personne n'attaque parce qu'ils viennent de voir qu'il y a deux mecs qui viennent de s'arrêter pisser. Mais justement, faisant ce besoin naturel, à un moment, il y a donc forcément le peloton qui repasse tranquillement et quelques voitures. Et au bout d'un moment, au bout de la 10e voiture, on a entendu, avec les fenêtres ouvertes, la radio Tour annonçant « Attaque au peloton, attention, attaque au peloton !» On s'est dit « Mais attends, mais c'est quoi ce Beans ?» Ils ont quand même bien vu qu'on s'arrêtait. Alors hop, on a remballé les choses et puis j'ai remonté Greg LeMond dans les premières positions rapidement parce que c'était un des favoris du Tour de France et c'était mon rôle de le ramener. Et en plus, j'étais pas très content de l'attaque. Et je l'ai remis dans les 5 premiers du peloton, sur une portion montante, je me rappellerai toujours, un faux plat où tout le monde était l'un derrière l'autre. Enfin bref, je marchais vraiment bien, parce que quand je l'ai remis dans les 10 premiers, le soir, il m'a dit, oh, tu sais, quand tu m'as remis dans les pelotons, j'étais pendu comme ça, c'est-à-dire qu'il était à fond. Au même moment où je l'ai remis dans les 10, j'ai vu un mec basculer au loin. Et je me suis dit, putain, c'est lui qui a attaqué. Et alors là, de rage, je suis reparti, pourtant j'arrivais de loin, hein. J'ai remis des dents, flac, j'ai attaqué et j'ai été rechercher la personne qui était en l'occurrence Maurice Le Guillou qui appartenait au groupe Toshiba La Vie Claire, l'équipe de Bernard Tapie. Momo, un coureur que je connais bien parce que ça faisait 1 ou 2 ans qu'on se côtoyait dans le peloton. Je suis arrivé à sa hauteur, j'ai dit Momo, tu te fous de moi ou quoi? T'as pas vu qu'on s'est arrêté pisser avec Greg? Il m'a dit non, c'est pas moi, c'est un Portugais. Regarde le Portugais, on a rattrapé le Portugais. Pareil, je lui ai passé la sauce. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit à Momo, qui a une certaine expérience, parce qu'il a fait beaucoup de Tours de France, déjà plus que moi, parce que moi c'était mon premier. J'ai dit, on se relève Momo, hein, il reste plus de 200 km. Moi je voulais pas partir en galère, parce que je m'étais dit, et j'ai quand même encore 3 semaines de course, donc je voulais avoir un peu de réserve, je savais pas où j'allais quoi. Et il a dit, non, on continue, on s'arrête pas, on continue. Ouais, on a bien fait de continuer, parce que on est arrivé avec 17 minutes d'avance, et ça m'a permis de prendre le maillot jaune. Voilà, c'est comme quoi si on s'arrête pas à pisser, si je bouge pas de ma place, je porte jamais ce maillot jaune.
Prenez le large avec l'Échappée Normande, le podcast de Tendance Ouest dédié au Tour de France.
Le lendemain, la course fait étape dans sa Normandie natale à Alençon. Le voilà à domicile devant les siens en tant que grand patron du Tour de France.
Bah oui, là c'est du stress quand même. Le contre-la-montre est vite arrivé, hein, Alençon-Le Mans, un contre-la-montre de 77 km. Hein, donc c'est quand même un contre-la-montre qui est quand même assez long. C'est rare d'en retrouver des aussi longs maintenant, et c'est beaucoup plus court. Mais 77 km, c'était énorme. Je me vois encore sortir du village d'Alençon où je vois arriver 73 km. En plus, je savais pas où j'allais. J'avais pas forcément beaucoup d'avance sur le Guillou et qui avait beaucoup d'expérience dans les Tours de France. Pas beaucoup d'avance non plus sur le Portugais. Donc, j'étais pas sûr de garder. Mais par contre, j'étais extrêmement motivé chez moi en Normandie où la foule, elle était pour moi dans les faux plats montants. Et ça se refermait tout juste quand j'arrivais. En fait, je m'étais dit tout à l'heure, j'ai tapé un mec avec l'épaule ou quoi. Ça te faisait des frissons. Enfin, c'était énorme, quoi. C'était énorme. Dans ce tour, j'ai eu beaucoup d'émotions parce qu'à un moment aussi, quand j'ai continué à le garder, en fait, on est aussi arrivé du côté de Nantes, la ville de mon père, et l'arrivée était à 50 mètres de sa maison d'enfance, en fait. Donc c'était extraordinaire. Je pense que j'ai encore eu plus d'émotions ici que de traverser la Normandie en jaune parce que c'était la ville de mon père, c'était à 50 mètres de chez lui, il y avait ma grand-mère qui était là, donc sa maman, toute la famille de Nantes était là. D'ailleurs, la veille, avant d'arriver sur Nantes, tous mes tontons, mon père avec ses frères ont parcouru les 30 derniers kilomètres en mettant avec des pots de peinture sur la route « Allez Barthaud, allez Vincent, maillot jaune ». Ils se sont fait embarquer par les flics parce que ça faisait des bouchons et ils ont passé la nuit au Niouf. la veille de l'arrivée du Tour. Ils avaient beau dire, mon père avait beau dire, c'est mon fils qui est maillot jaune. En plus, ils avaient bu un petit coup de muscadet, donc ils n'étaient pas tous très frais. Donc, ils se sont tous fait embarquer, la dizaine, là, au Newf, et ils sont ressortis le lendemain matin. Ils ont quand même pu assister à l'arrivée à Nantes, mais ça a été une soirée incroyable.
Vincent Barthaud gardera le maillot jaune pendant 13 jours, traversant les Pyrénées en tant que leader du classement général. C'est à l'Alpe d'Huez qu'il cédera la tunique, récupérée par son coéquipier Laurent Fignon, vainqueur du Tour ensuite. Le Canet revient sur la grande boucle en 1986, mais très brièvement, il est malade et termine hors délai dès la deuxième étape. Il faut attendre alors 1989 pour le voir réussir un nouveau grand numéro sur la grande boucle. Le 14 juillet, les coureurs s'élancent de Montpellier direction Marseille. Là encore, c'est lui qui refait le scénario.
Me voilà de nouveau arrivé dans ce Tour 89, où là, au matin de l'étape du 14 juillet, Marseille, bicentenaire de la Révolution, c'est pas le petit 14 juillet tous les jours, hein, tous les ans. Chaque Français a envie de gagner, quoi. C'est notre fête nationale. Après, moi, j'en ai pas fait forcément une fixation parce que c'est tellement un métier qui est difficile pour moi de pouvoir gagner le 9, le 10, le 11, le 12 ou le 16 ou le 17 à la place du 14. C'est pareil parce qu'en fait, encore une fois, c'est tellement dur à gagner l'étape du Tour. On est 200, il n'y a qu'un vainqueur. Vous tirez les étapes de montagne, les étapes de contre-la-montre. Il reste plus beaucoup d'étapes à gagner pour un coureur qui est classique, en fait, voilà. Donc ce jour-là, c'était mon jour, en fait. Je me suis réveillé le matin à 6h. La veille, je m'étais fait virer de mon massage par Alain Galopin parce qu'il me massait. Il me disait, je comprends pas les muscles que t'as. Ils sentent, en fait, quand c'est bien tonique, quand t'as la forme, ils le sentent. Et il me disait, ouais, je comprends pas que c'est pas mieux. Normalement, comme t'es là, t'es rempli de force. Je sais plus ce qu'il m'a raconté. Et puis, en fait, moi, j'avais fait mine de pleurer en lui disant une anecdote de je sais plus quoi. J'avais fait mine de pleurer parce que, voilà... Je suis assez émotif, donc je pleure assez facilement, mais ça l'avait pris un peu aux tripes, et j'ai vu qu'à un moment, dans ses yeux, c'était un peu, les yeux un peu mouillés aussi. J'ai dit, mais puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais non, mais Alain, je déconne, la vie est belle, on rigole, je rigole, c'est pas vrai. Et là, il m'a viré, il m'a dit, dégage! Il a été vexé, en fait. Il m'a dit, dégage. Mais j'ai dit, mais tu m'as pas massé l'autre jambe. Tu j'en ai rien à foutre. Donc, je me suis pas fait masser l'autre jambe la veille que j'ai gagné le 14 juillet. Comme quoi, voilà, tu vois, des fois, ça sert à rien. Et je me suis réveillé le matin à 6h, j'avais une pêche d'enfer, je savais que c'était ma journée en fait. Et ça s'est bien passé dans la journée. On a d'ailleurs eu à un moment une attaque de Laurent Fignon et de Charlie Mottet tous les deux. Fignon était maillot jaune, il y a eu beaucoup de vent du côté de avant d'arriver sur Marseille. C'était vallonné aussi parce que du côté d'Aubagne ça monte et ça descend. Mais je sentais vraiment que j'étais dans une grande journée. Donc on est parti à une trentaine où il y avait tous les favoris du Tour, Lemon, Fignon, Delgado, Indurain, Kelly. Ça s'est bien passé pour moi. Et j'ai attaqué à un moment, j'ai lâché Colotti à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et je suis arrivé tout seul sur le Vieux-Port comme un grand pour cette belle étape du 14 juillet, bicentenaire de la Révolution. Alors vous savez, quand je suis arrivé à Marseille, j'avais une petite boucle à faire sur le port de 3 kilomètres en fait. Donc j'ai fait le tour, et à un moment, en revenant sur le parcours du dernier kilomètre, en fait, comme j'ai fait une petite boucle, ils ont arrêté les lâchers. À un moment, ils ont arrêté un peloton pour que je passe, moi. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, pour une fois, que c'est pas moi qu'on arrête. Et donc je gagne, quoi, voilà, magnifique.
Une arrivée en solitaire, de quoi lui permettre de savourer la victoire.
On a rarement vu autant de monde sur le Tour de France, à part des fois peut-être en Belgique ou en Angleterre où il y avait beaucoup de monde au départ et tout. Mais sur une arrivée à Marseille, les 15 derniers kilomètres, il n'y avait pas un trou dans la foule. Énorme, il faisait une chaleur incroyable. Oui, j'avais les frissons, c'était quand j'ai entendu la cloche, là, quand je suis allé partir faire mes 3 derniers kilomètres, là, c'était du monde sur le port, incroyable.
Cerise sur le gâteau, le vainqueur du jour reçoit les félicitations du président de la République, François Mitterrand.
Oui, j'ai reçu un télégramme, ouais, le truc classique qu'il envoie sur moi un peu à tout le monde, mais je suis devenu surtout citoyen de la ville d'honneur de Marseille, où j'ai une place au stade à vie, en fait. Même dans le nouveau stade, alors j'y vais jamais, mais si j'ai envie d'y aller, j'ai ma place. Autrement, il la donne à un autre. Hein.
Ce Tour de France 89 est resté mythique grâce au duel entre Laurent Fignon, le coéquipier de Vincent Barthaud, et Greg LeMond, devenu désormais son adversaire.
Il y a un retournement de situation incroyable le dernier jour, où on finissait sur un contre-la-montre sur les Champs-Élysées de 25 km, et où on pensait vraiment que Laurent avait gagné, parce qu'il avait pratiquement 50 secondes d'avance. Tous les spécialistes dans le cyclisme vont te dire que reprendre 50 secondes à un leader du Tour sur un peu de kilomètres, c'est pratiquement impossible. Mais il l'a quand même réalisé, Greg LeMond. Il l'a fait. Donc, pour moi, j'étais content aussi que ça soit Greg LeMond qui gagne parce qu'on s'était reperdu un peu de vue. Hein. Après son accident de chasse, on est allé ensemble chez PDM et tout. Bon, voilà. On s'est retrouvé en 89 et il revenait de loin, en fait, lui aussi. Il n'avait pas beaucoup d'équipiers la dernière semaine à ses côtés. Il remontait quand il s'arrêtait pour un besoin naturel, il est remonté tout seul. Nous, on protégeait Laurent, donc il s'usait quand même pas mal. Et ce dernier jour, oui, à un moment, les gars dans l'équipe, parce qu'on est arrivé par le train à Paris, on est arrivé de Villefranche-sur-Saône, je sais plus. Les mecs faisaient les comptes, voilà, victoire du sponsor, victoire de ci, victoire finale, on a gagné tant. Et à un moment, moi, je croise mon Greg dans le train, il fait, oh, tu sais, Vincent, je n'ai pas perdu le tour. Et effectivement, donc nous, on fait notre compte la montre, vous savez, les départs, ça commence à 10h le matin, et les derniers, comme Laurent Fignon, c'était 15h, moi, j'ai dû partir vers les 13h. Et après, on se retrouvait nos épouses chez le nôtre à Paris sur la ligne d'arrivée où on a tous regardé sur l'écran géant les deux derniers partir, c'est-à-dire Lemon et Fignon. Et effectivement, quand Lemon est arrivé au premier pointage, j'ai déjà repris 20 secondes, les choses n'ont pas été les mêmes. Les mecs, ils ont commencé à moins rigoler, à regarder le calcul, à refaire les comptes. Puis en fait, ouais, voilà, il le bat pour 8 secondes, mais c'était incroyable.
Ils ont fait l'histoire de la grande boucle. Écoutez-les dans l'Échappée Normande, le podcast Tendance Ouest spécial Tour.
L'année suivante, la saison est mitigée pour le Canet. Il se fâche avec sa direction, son équipe passe à côté du Tour de France. Et d'ailleurs, Laurent Fignon abandonne l'épreuve à Villers-Bocage. Lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Vincent Barthaud sait que sa carrière se termine.
J'ai pris mon fils sur le vélo, j'ai une photo où il est sur mon guidon, on fait le tour d'honneur avec lui. J'ai une photo avec l'Arc de Triomphe derrière. Et ouais, là, je sais que c'est mon dernier tour. C'est pour ça que je lui fais faire le tour, d'ailleurs.
Après sa retraite, il devient consultant pour différents médias et se dit qu'avec tout ce qu'il a vécu, il pourrait bien prendre la plume. Ainsi paraît complètement Barthaud.
J'ai pas voulu faire d'autobiographie. En fait, je voulais faire qu'avec des anecdotes. En plus, il se lit facilement. En fait, quand t'es sur une anecdote, sur une histoire, t'as envie de savoir la prochaine. J'ai des amis qui le lisent en 4-5 heures. Mais il faut le lire parce que vous allez avoir de tout dedans. Vous allez être ému, vous allez découvrir des anecdotes sur la vie de tous les jours. Enfin, j'ai rien à apprendre, hein. Mais il faut le lire, quoi, tout simplement.
Toujours dans le milieu, Vincent Barthaud livre son analyse sur l'entraînement et l'énorme évolution de son sport de toujours.
Si on voulait comparer par rapport à mon temps, à moi dans les années 80, des fois on partait le matin faire 100 km, on repartait l'après-midi faire 100 bornes. C'était la sensation, mais c'était peut-être pas la façon qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, maintenant, ils ont des technicités qui fait que quand ils rentrent le midi, l'entraîneur regarde les charges de travail. On sait tout de suite s'il est fatigué, si demain faut qu'il change. Ils disent voilà, toi demain tu vas pas faire 100, tu vas faire plus court, mais tu vas travailler plus rapide ou tu vas carrément te reposer. Voilà, et ça fait progresser l'athlète vraiment. Dans le cyclisme d'aujourd'hui, les 200 qui sont au départ, t'en as 10-15 qui sont au-dessus du lot, les Pogacar, les Wout van Aert, les Van Der Poel, les gens passent, mais par contre, le reste, ils se valent, en fait. Ils ont la même VO2 max, ils ont les mêmes plans d'entraînement, ce qui fait que quand il y en a un qui attaque, l'autre peut y aller, et ça fait augmenter aussi les moyennes. On parle beaucoup de dopage ces dernières années parce que voilà, malheureusement, il y en a qui trichent, mais c'est tellement un sport qui est difficile que un champion restera quand même un champion. Hein. Mais pour comparer avec les nôtres, c'est complètement différent. Maintenant, ils ont l'alimentation qui est incroyablement mis au point. Nous, on finissait l'étape, fallait attendre d'arriver à l'hôtel avant de manger des pâtes qui étaient remplies de flotte. On était 10 équipes dans le même hôtel. Enfin voilà, on dormait dans des lits où il y avait des punaises, on s'en foutait. Maintenant, les gars, dans le bus, ils prennent leur douche tout de suite, ils mangent déjà. Non, il y a un temps de repos qui est un gain de temps qui est incroyable. Donc c'est complètement différent.
Et en tout cas, il a hâte de voir le peloton passer dans sa ville natale à l'occasion d'un contre-la-montre.
C'est pas si difficile que ça, mais bon, ça reste quand même dur le vélo, parce que même si c'est tout plat, faut pouvoir rouler à plus de 50. 33 km, c'est pas forcément long, mais c'est quand même 33 bornes. C'est un parcours qui va convenir à Evenepoel, Pogacar, les vrais rouleurs en fait. C'est ce qui fait un peu la différence avec Pogacar, c'est que non seulement il sait rouler, il sait grimper, il sait aussi sprinter. C'est pour ça que c'est le meilleur. Ganna, l'Italien, Ganna, Evenepoel, le Belge, voilà, c'est un parcours qui va vraiment bien leur aller.
Encore un bon mois d'attente avant que le peloton du Tour de France ne sillonne à nouveau les routes normandes. Notre prochain invité sera de la partie, mais sur une moto. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec Bruno Thibault, ex-cycliste originaire de Seine-Maritime, qui travaille désormais pour ASO, l'organisateur du Tour de France.
Échappez-vous avec notre podcast spécial Tour de France.